Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de celle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Et puis vous retrouvez également l'auteur dont nous allons parler avec lui de son nouveau roman. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Je suis toujours ravie de voir son livre arriver, le prendre et le lire, et puis savoir que à la fin de cette lecture, eh bien, j'aurai rendez-vous avec l'auteur et nous parlerons pendant quelques minutes de ce livre, de son investissement, de la genèse, de l'histoire, des personnages. Bref, cet échange que je fais avec lui maintenant depuis plusieurs années, et je le remercie d'être fidèle à ses deux ailes et à Délivrez-vous. Ça me touche toujours beaucoup. Je ne veux pas faire de peine aux autres, mais en matière de thriller, c'est un de mes auteurs préférés. Et puis, au-delà de l'auteur, c'est l'homme, toujours courtois, sympathique, et l'échange est toujours formidable. Donc, sans plus attendre, parce que je suis sûre que vous avez hâte, parce que vous avez vu que son livre est sorti et peut-être l'avez-vous déjà lu, et ce sera un plaisir pour vous de l'entendre. Donc j'ai le plaisir, l'honneur et le grand avantage encore aujourd'hui d'accueillir Olivier Ball. Bonjour Olivier.
Bonjour Claudine.
Merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation pour ces deux ailes pour Délivrez-vous, pour votre dernier roman, thriller, Roche de sang aux éditions XO. Alors on ne vous présente plus non plus l'affaire Clara Miller, La forêt des disparus, Méfiez-vous des anges et La Roche de sang, donc je disais, aux éditions XO. Alors je disais, c'est une autre phase de votre écriture. Je vous disais hors antenne, vous êtes rentré pour moi dans la cour des grands romans de thriller. Votre écriture a évolué, chargée de richesse. Oui, pour moi, comme je vous ai dit hors antenne, Olivier, vous êtes trop fort. Alors, c'est un investissement différent. Alors, on laisse Paul Green, hein, il est en vacances, voilà. Et j'ai senti au travers de ce roman, chez vous, quelque chose, une envie brutale, voilà. Il fallait que vous fassiez ce livre.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce livre, Roche de sang, me tourne autour depuis de nombreuses années. Oui. En réalité, l'idée, je la porte en moi depuis une dizaine d'années.
Ah,
j'ai vraiment cette envie de raconter cette histoire.
Oui.
Mais il m'a fallu la laisser mûrir, la laisser se construire en moi. Et voilà. Mais en tout cas, l'idée de base, c'est-à-dire l'histoire de ces deux frères
qui vont décider... Théo et Ange Biasini.
Voilà, qui vont décider de monter des braquages de yacht de milliardaires durant un été en Corse. Oui. Elle m'est apparue il y a 10 ans, et vraiment, pour le coup, ce n'est pas un argument, hein, mais vraiment, elle m'est apparue au large des calanques de Corse.
Oui.
Un soir, avec un coucher de soleil, on était en bateau, et j'ai eu cette envie, voilà, de raconter aussi l'histoire d'une fratrie.
Oui.
Qui se déchire autant qu'elle s'aime, une histoire tragique, et il m'a fallu du temps, en effet, pour me lancer, parce que bon, déjà, j'avais cette histoire avec Paul Green, qu'il fallait,
oui,
que j'aille au bout.
Oui.
Et puis, il fallait que je me sente prêt, que ça soit le bon moment, et il était temps.
Oui. Alors, vous nous trimballez justement des côtes corses, on va vers Belgrade, les montagnes suisses, et puis l'île de Lesbos également. Donc, vous nous trimballez un peu au travers de l'Europe, avec une héroïne que moi, j'ai beaucoup aimée. Je me suis dit, oh, j'aimerais bien la rencontrer. Marit Jansen, qui est à Europol. Alors, j'ai envie de dire inspectrice, mais elle n'est pas tellement quand même du Sérail. C'est un personnage un petit peu à part, notre Marit Jansen.
Oui, tout à fait. C'est très juste ce que vous dites, Claudine, puisque en effet, c'est une policière. Donc, la Europol, pour l'information, c'est la grande agence,
oui,
européenne,
oui,
qui permet de coordonner des enquêtes au niveau international.
Oui.
Donc, il y a des policiers, hein, de toutes les nationalités des pays qui forment l'Europe. Marit est une policière française, oui, qui a donc intégré Europol, 3-4 ans.
Oui.
Mais, comme vous le sous-entendiez, ce n'est pas une policière d'action, c'est plutôt quelqu'un
de
qui,
terrain.
Elle,
de
fait
terrain.
Tout pour rester un petit peu en marge.
Oui.
Elle, ce qu'elle a voulu faire en intégrant Europol, c'est intégrer plutôt les unités de contrôle, de surveillance, sur la grande criminalité. Donc elle est plutôt dans les dossiers, à décrypter les comptes bancaires, à essayer,
oui,
de remonter les informations. Elle est plutôt en retrait. Et quoi qu'il en soit, le rôle d'un agent d'Europol, c'est toujours de coordonner l'action des polices, mais jamais d'être en première ligne. Et ce qui va être intéressant au gré du livre, c'est qu'elle va être obligée, justement,
oui,
d'aller au cœur de l'action, de se mettre en danger aussi. Et c'est ce chemin que je voulais faire avec elle.
Oui. Alors, comme d'habitude, on va tourner autour du pot, hein, bien évidemment, parce qu'un thriller, on peut parler un peu de l'action, mais ni du milieu, ni de la fin. On laisse aux gens le soin de le découvrir. Donc, on va parler des personnages, on va situer le moment et l'action. Ouais. Alors, on peut quand même parler du début. Moi, dès le départ, dans le livre, vous nous mettez dans l'action. Il y a un des Biasini, on va pas dire qui, il est blessé, il est dans l'eau, il flotte, il y a son agresseur qui est là, et on se dit, oulala, ça démarre fort. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est que c'est dans le descriptif, c'est-à-dire je l'entendais respirer, s'essouffler, et puis quand même malgré tout se battre parce que il avait pas tout résolu et il sentait un peu la vie qui lui filait, mais en même temps il est blessé, il a mal. Je me suis dit, mais à croire qu'Olivier Ball un jour a été blessé, a ressenti cette douleur.
Bah écoutez, c'est gentil. En effet. Ce prologue est très important.
Ah oui.
Moi, c'est un exercice qui me plaît. C'est-à-dire, depuis quelques livres, j'aime bien placer mes prologues. En réalité, ce prologue est quasiment comme un épilogue. Je vous explique, c'est qu'en gros, le prologue se passe quasiment à la fin du livre.
Oui.
Et donc, c'est un extrait qui va arriver à la fin du livre. Donc, je trouve que, vu qu'en plus ici, j'essaie de raconter une odyssée tragique avec vraiment un récit comme ça, je voulais qu'il y ait un côté quasiment inéluctable, que vous progressiez au gré de la lecture et que vous reteniez les pages parce que vous savez que ça va pas spécialement bien se terminer.
Oui.
Donc en effet, en commençant de telle manière, où en effet, bon, on peut le dire, parce que c'est vraiment les deux premières pages,
oui.
on rencontre Ange qui en effet dérive sur un cours d'eau en Corse, il a été blessé, il est très faible,
oui.
Mais il doit encore se battre, il doit encore se lever, il a encore des choses à finir.
Oui.
Et ce qui me plaît aussi avec ça, c'est le rapport un peu ludique que je vais créer avec les lectrices et les lecteurs, c'est que moi j'aime les livres qu'on va prendre, qu'on va feuilleter, on va revenir sur des passages qu'on a déjà lus avec des nouvelles informations.
Oui.
Avec ce prologue, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein de petits indices. Mais
oui.
En fait, vous allez les comprendre au fur et à mesure de la lecture, et donc vous allez pouvoir relire ce prologue plusieurs fois au gré de votre lecture et comprendre des choses différentes.
Mmh.
Et plus largement, tout simplement, ce qui me plaisait, c'est que ça met tout de suite en place une tension forte,
un climat,
une ambiance, et voilà. Alors après, non, je n'ai pas poussé la documentation à les faire tirer dessus, à me laisser dériver dans un fleuve corse. J'ai fait beaucoup de choses sur ce bouquin en termes de documentation.
Oui, j'imagine.
On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je suis même parti en Corse une semaine marcher et tout ça.
Oui.
Mais non, je ne me suis pas fait tirer dessus. Donc en effet, c'est toujours des choses difficiles d'essayer de se mettre dans la peau de ces personnages, d'essayer de transmettre cette empathie.
Oui.
Mais c'est pour moi la clé et la mission principale que j'ai en tant qu'auteur.
Moi, je vous avoue qu'à la fin du prologue, j'ai posé un peu le livre pour réfléchir. pour remettre les choses en perspective, voilà, pour continuer. Alors, la Corse aussi, je me suis dit, la Corse, c'est un élément important dans la vie d'Olivier Ball. On sent que c'est quelque chose qui vous habite, c'est une richesse en vous, c'est quelque chose que vous avez adopté, c'est votre ADN, la Corse.
Absolument, c'est très juste, c'est vraiment ça, c'est que pour moi, la Corse est ma patrie de cœur.
Ouais.
En fait, je suis très lié à cette île à un niveau personnel, puisque moi j'y vais depuis 40 ans, j'ai connu l'île à tous les âges, en tant que, bien entendu, touriste, hein, je n'ai pas la prétention de dire que je suis corse, mais j'ai connu cette île à tous les âges, moi j'ai appris à nager dans les eaux corses, j'ai appris à plonger, moi un peu à l'instar du personnage de Ange qui est un ancien apnéiste professionnel, moi j'aime beaucoup l'apnée, c'est un truc qu'on se transmet dans ma famille de père en fils et de père en fille. Et donc c'est quelque chose qu'on a tous, qu'on partage, et ce qui est un peu la boucle se boucle aujourd'hui, puisque désormais j'apprends à mes enfants à retenir leur respiration et à aller plonger au fond de l'eau en Corse.
Ouais.
Donc voilà, en gros, au gré du livre, finalement, le cœur du livre se passe en effet en 1993 en Corse, et au gré du livre, au gré de ces chapitres, je glisse aussi des souvenirs très personnels, à la fois dans les lieux évoqués, mais aussi dans les scènes, puisqu'on parle beaucoup d'amitié, on parle beaucoup du temps qui passe, et Ange, Théo, Fred et Doumé, les quatre vieux copains, se rappellent aussi pas mal de leurs vieux souvenirs, qui sont souvent les miens. Voilà. Et puis plus largement, ma famille est très liée aussi à la Corse, depuis le début du 1900, où mes arrière-grands-parents ont fait leur lune de miel, en fait, en traversant la Corse.
Toute une histoire.
À d'autres baudets, en passant en marchant, de bergerie en bergerie.
Ça, c'est chouette.
Voilà.
Ça, c'est
sympa. Et puis plus tard, Seconde Guerre mondiale, mon grand-père a combattu, était le plus jeune médecin de l'armée française, et il y a eu 24 ans. Et en 40, je crois que c'était 44, il a fait le débarquement en Corse.
Ah oui.
Auprès des goumiers marocains. Ouais, voilà. Et donc il y a
belle histoire.
Voilà, donc très attaché. J'ai ce souvenir de cet homme vieillissant qui grimpait comme ça, qui gravissait un mont qui s'appelle le col de Teguim, là où il y a une terrible bataille en Corse, et il allait rendre hommage à ses frères d'armes morts là-bas. Et voilà, donc il partait seul, même voilà, en plein soleil, marchait seul pour se rappeler de tout ça. Donc tout ça, ça construit. Oui, tout ça, ça marque, et puis voilà, donc on est, oui, chez les balles, on est très très Corse, on aime la Corse de tout notre cœur.
Ben moi aussi, j'aime la Corse aussi, voilà. Alors, Marie Janssen, alors, il y a bien sûr tout un tas de choses, il y a un milliardaire serbe, hein, donc qu'on retrouve assassiné, avec une phrase un peu curieuse écrite en serbe, dont je ne me souviens absolument pas
en
la
corse,
phrase en corse, corse, en corse, en serbe, la phrase en corse, donc je suis incapable de me souvenir.
Je peux vous le dire, mais alors, si des Corses nous écoutent, je tiens à d'abord m'excuser de mon mauvais accent.
Hein. C'est pas grave.
La phrase est « C'è la mia ferita sia mortale
».
Et en gros, elle se traduirait par « Que ma blessure soit mortelle ».«
Que ma blessure soit mortelle ».
Voilà. Ah. Et en effet, cette phrase « Que ma blessure soit mortelle » va ramener Marie sur...
Et voilà, des années en arrière.
C'est une phrase qui est liée au mythe, on va dire, à la culture de la vendetta. Ouais.
Oui, c'est ça. Alors, on disait, Marie Janssen, c'est un flic un petit peu à part. L'essentiel, je dirais, de l'histoire, la trame, c'est vraiment ces deux frères. Et puis, mais moi, il y a aussi un affrontement. C'est un affrontement, c'est une lutte sans fin et sans merci aussi dans ce roman.
Oui, vraiment, c'est l'histoire d'un combat qui se joue à plusieurs niveaux. Chaque personnage mène un combat contre des ennemis, hein. Oui. Il y a des menaces qui sont nombreuses.
Mais même Marie aussi se bat, bien entendu,
mais aussi un combat contre soi-même.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Surtout dans le cas des quatre, donc la bande des Roches-Rouges, les braqueurs dans les années 90.
Oui.
En effet, on est sur des malfrats, on est sur des, voilà, pour moi, on est sur des vauriens, quoi. C'est des petites mains qui rêvent du grand coup et qui rêvent trop grand. Mais ils sont les héritiers, en tout cas Ange et Théo sont les héritiers du clan du Mistral, qui était le grand clan que j'ai inventé, hein, qui est le grand clan qui régnait sur le nord de l'île. Leur père était le parrain de ce clan, et eux ont grandi dans l'ombre de cet homme tyrannique, un véritable ogre qui s'appelait Orso. Et qui les a fait beaucoup souffrir.
Oui.
Donc eux ont toujours grandi.
Ils ont grandi dans la haine et dans la colère.
Dans la violence et le sang. Et il y a toute cette réflexion sur le roman, c'est une histoire autour de la rédemption. Est-ce qu'on peut racheter? Est-ce qu'on peut devenir quelqu'un d'autre? Il y a une phrase que j'aime bien, qui est pas très française, mais qui je trouve raconte bien le bouquin aussi. C'est Fred, l'un des meilleurs amis donc des deux frères. On ne sera jamais quelqu'un de bien, mais au moins peut-être quelqu'un de mieux.
Quelqu'un d'autre.
En tout cas, essayer. D'un petit peu se racheter. Donc moi, ce qui m'intéressait aussi pour les lectrices et les lecteurs, c'est que je ne romantise pas mes personnages. Ce sont des gens qui sont durs, qui peuvent faire couler le sang, qui peuvent être violents, mais malgré tout, il y a une part d'humanité en eux.
Donc j'aime bien que
les lecteurs passent peut-être d'une forme de pas de dégoût, mais en tout cas de peur par rapport à ce que peuvent faire ces personnages qui sont les narrateurs, mais aussi le chapitre suivant ou un peu plus tard, aller un peu les comprendre, peut-être leur pardonner un peu.
Alors, nul doute que cela, à mon avis, vous a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Je dirais, bien sûr, hein, les personnages sont fictifs, mais forcément, en Corse, hein, il y a forcément ce genre de mafia, ce genre de gang, ce genre de grande famille. Et nul doute, alors je pense, peut-être que je me trompe, que votre travail, vos recherches, ça vous a aidé, vous êtes aiguillé dans ce sens-là. Enfin, moi, j'ai eu un sentiment parce que c'est quand même, c'est terrifiant de vérité.
Hein. Oui, complètement. Bah, j'ai passé plusieurs mois, moi, je passe tout le temps, on va dire, 4-5 mois de documentation avant vraiment de me lancer dans le cœur du livre.
Ouais.
Et ensuite, la documentation continue à m'accompagner au gré de l'écriture. Et il est vrai que là, pour le coup, j'ai lu et regardé beaucoup de documentaires, lu beaucoup d'ouvrages autour du grand banditisme corse. Donc j'ai la chance, c'est qu'il y a par exemple des grands journalistes comme Jacques Folleroux, qui a écrit des bouquins assez formidables sur l'histoire du grand banditisme corse et les différents clans, les différentes fratries, les différents les groupes qui ont régné sur l'île. J'ai aussi lu le livre qui s'appelle Le Repenti de Claude Chaussat, qui est finalement le seul membre du grand banditisme corse qui a parlé, puisque voilà, il a été sous protection des témoins, et puis il a écrit ce livre où il raconte aussi de l'intérieur ses années auprès du clan de la Brise de Mer, qui est le clan illustre des années 80-90 sur la partie nord de l'île. Et plus largement, j'ai aussi essayé de discuter avec des Corses, leur parler de tout ça, leur dire, essayer de comprendre comment on vivait avec ce climat parfois.
Et ça s'est bien passé puisque vous êtes toujours vivant.
Oui, non, et puis vraiment, pour le coup, vous savez, il faut pas non plus...
Non, je rigole.
Moi, c'était le piège que j'avais avec ce livre. C'est que certes, on parle de grand banditisme, parle de vendetta, mais je ne voulais pas aller dans le cliché de la vision corse.
Donc, bien sûr.
Si on dépasse, je pense, les premières pages, on comprend que j'ai autre chose à raconter derrière ça.
Oui.
Et donc j'ai discuté avec des Corses, pour à la fois tout simplement leur parler de leur culture, leur histoire, leur tradition, mais aussi leur parler du climat dans lequel ils peuvent vivre parfois. J'ai aussi discuté avec Éric Arella, qui est un grand nom de la police judiciaire française, qui a travaillé pendant 10-15 ans sur la zone sud et la zone corse. Donc il était vraiment au cœur du combat contre le grand banditisme, sauf qu'à l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de moyens sur la Corse. Et enfin, j'ai parlé avec des personnes, des membres d'associations qui aujourd'hui se battent en Corse pour lever la loi du silence. Donc, j'ai pu discuter avec une femme qui s'appelle Dominique Bianconi, qui travaille, qui fait partie du collectif Mafiano Avitaillé, et qui fait tout, pour que les choses bougent en Corse, pour que les gens n'aient plus peur de parler, et aussi pour que les autorités prennent la pleine mesure de ce qui se passe. Donc, c'est un combat difficile, c'est
David
contre Goliath, mais aujourd'hui, il ne faut pas croire que tout le monde se tait en Corse. Il y a des gens qui se lèvent, des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent qu'ils ne sont plus d'accord.
Oui. Alors vous nous trimballez, je le disais au début de notre conversation, Belgrade, Lesbos, les montagnes suisses. Alors je me disais durant la lecture, je dis c'est pas commun parce que d'habitude ça peut être des villes, ça peut être Rome, Milan. Mais alors là c'est Belgrade. Alors Belgrade évidemment parce que il y a une histoire serbe. La Suisse, vous verrez pourquoi. Et puis Lesbos c'est une petite île, je crois qu'il fait partie des Cyclades, c'est ça. D'ailleurs sous l'Antiquité, qui était déjà célèbre sous l'Antiquité, la Grèce ancienne. Mais je me suis dit, mais c'est pourquoi pourquoi.
Alors tout simplement, je ne voulais pas raconter un roman corso-corse. Envie que on gravite autour de la Corse, un peu comme une spirale à travers l'enquête de Marie qui s'en rapproche. Un peu malgré elle, et ça raconte aussi son personnage. C'est-à-dire que Marie elle-même est d'origine corse. Elle a quitté l'île quand elle avait 18 ans pour des raisons qui sont personnelles que vous comprendrez dans l'histoire. Et j'avais cette envie qu'elle fait tout pour fuir cette île, mais que elle vit ramenée malgré elle. Et donc finalement on tourne autour de l'île à travers l'Europe. Plus largement, l'envie que j'avais, c'était vraiment de raconter une odyssée tragique. Donc vous le sentez dans le livre, il y a pas mal de parallèles avec la mythologie grecque, il y a tout un jeu autour de cette thématique-là. Et en effet, j'avais cette envie de vous entraîner dans une lecture qui vous emmène à la fois à travers la Corse, bien sûr, vous allez voyager à travers la Corse, mais voyager aussi à travers l'Europe, aussi peut-être l'envie à travers le récit de Marie de vous raconter cette Europe qu'on tait, cette Europe qu'on ne veut pas,
l'Europe
montrer,
de l'Est,
cette Europe des ombres.
L'Europe de l'Est.
Et puis ces pans d'histoire récents qu'on tait et qu'on fait tout pour effacer. Le fait que des peuples qui étaient frères se sont déchirés simplement pour une question de religion, de culture, alors que donc il y a cette histoire aussi au cœur de comment on se crée notre mal en nous-mêmes, quoi.
Et puis ce qui est intéressant aussi au niveau de Lesbos, ça lève le voile aussi sur un certain nombre de choses parce que c'est une île qui n'a jamais eu trop bonne réputation. Et c'était bien, moi je trouve, finalement, parce que je connais pas de roman où on en parle beaucoup, et c'était bien, je trouve, de l'intégrer dans cette course, dans cette fuite en avant, dans cette recherche, parce qu'en plus ça, je trouve que ça ajoute à la force de la chose parce que justement on n'en parle pas beaucoup. Et puis après la Corse, après Belgrade ou la Suisse, Lesbos, ça paraissait plus, comment dirais-je, plus petit, plus intimiste, plus mystérieux encore. Et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé
D'accord.
ça bien. Ouais, c'était pas mal. Alors, une autre question que je me suis posée aussi, et peut-être la plupart de vos lecteurs, lectrices et lecteurs l'ont-ils fait, vous avez changé de mode d'écriture et de mode de fonctionnement.
Oui, tout à fait.
Pourquoi ?
Eh bien, en effet, donc mes livres, jusqu'à maintenant, tous mes livres étaient écrits à la première personne,
oui.
Donc sous la forme du jeu.
Oui.
Donc en fait, on vivait l'expérience à travers les yeux de nos personnages. Mmh. Moi, j'aime bien avoir des récits choraux, donc avec plusieurs personnages,
ouais,
qui sont autant de narrateurs et de héros ou de anti-héros.
Mmh.
Mais en tout cas, de chapitre en chapitre, on passe d'une voix à une autre.
Mmh.
Ce qui m'intéressait en termes littéraires, c'est que vraiment, je vous plaçais au cœur de ces personnages. Vous étiez avec eux, vous étiez dans leur tête,
oui.
Donc à la fois ça crée une tension aussi parce que vous vivez avec eux aux premières loges l'action,
mmh,
mais plus largement, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous vivez avec eux leur psychologie,
oui,
leur trauma, leurs blessures,
leurs états d'âme.
Mmh. Et donc c'était un recours qui était très intéressant en termes littéraires.
Mmh.
Maintenant, il est vrai qu'après tous ces livres, j'avais aussi besoin de me réinventer,
mmh,
besoin de me mettre en danger, besoin de recommencer quelque chose de nouveau. C'était l'occasion puisque quelque part, je délaisse le cycle de Paul Green,
oui,
où c'était vraiment la signature de ces trois bouquins, c'était aussi ce style d'écriture.
Oui.
Donc, je suis revenu à une écriture pas spécialement classique, mais en tout cas la troisième personne.
Oui.
Mais ce qui me permet aussi d'avoir une vraie liberté, parce que du coup, je peux
faire plus de choses.
Omniscient, c'est-à-dire d'un paragraphe à l'autre, passer d'un personnage à un autre, mmh, changer de point de vue. Vous emmenez lecteur et lectrice,
mmh,
dans des scènes aussi, je pense, des chapitres très rythmés, puisqu'on peut passer d'un point de vue à l'autre. C'est notamment, mmh, le cas durant les trois braquages de Yacht qui,
oui,
ont égrené la lecture,
oui,
où vraiment j'ai essayé de créer des moments de tension folle, où on est accroché à nos pages, on est accroché à chaque ligne.
Mmh.
Et en effet, cette possibilité de passer d'un point de vue à l'autre est très très intéressante.
Oui. Mais c'est une écriture aussi que moi j'ai ressentie haletante. C'est-à-dire que vous, sans doute, peut-être, avez-vous écrit parfois, vous aviez manqué de souffle, mais on court après les pages, on court après l'histoire, on est avec Marie Janssen, et puis on court aussi derrière ces truands, derrière ce gang, mais c'est haletant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause réelle. Alors, parfois aussi, parce que il ne faut pas que ça aille trop vite non plus pour laisser le thriller et le suspense se faire, mais j'ai trouvé ça redoutablement efficace. Voilà, parce que c'est, pour moi, c'était pas évident de passer de votre ancienne forme d'écriture à celle d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ah bah, très honnêtement, ça n'a pas été facile. J'ai eu l'impression de réapprendre à écrire.
Ah, mais pourtant, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous est naturel. Ça vous va super,
ouais,
bien. En fait.
Bah, c'est gentil, mais en tout cas, je pense que je garde aussi l'héritage de mes précédents livres,
oui,
avec cette envie d'empathie, d'immersion auprès, oui, des personnages. Donc, en effet, on est à la troisième personne, mais on est avec eux, on vit avec eux, et j'espère qu'on tremble et on frémit avec eux.
Ah bah, lors du braquage et tout ça, c'est vrai que
ouais,
là, on arrête de respirer, quoi. Voilà, c'est peut-être plus facile de le faire avec cette nouvelle écriture aussi.
Tout à fait. Et
ouais,
plus largement, moi, je revendique une écriture qui va à l'essentiel.
Oui.
Moi, j'essaie de ne pas trop me regarder écrire.
Mmh.
Donc, même si je pense que c'est peut-être certainement mon livre le plus littéraire, j'essaie de travailler pour vraiment aller à l'essence,
mmh,
pour vraiment garder une forme de récit assez fusionnel avec le lecteur. Voilà.
Mmh. Mais vous avez conscience quand même que les critiques sont dithyrambiques favorablement.
Vous savez, c'est toujours compliqué pour nous parce qu'on est un peu dans notre tour d'ivoire,
ouais,
isolé, un peu en retraite, tout ça, on se rend pas trop compte, et c'est peut-être finalement pas plus mal. Comme ça, on prend pas trop la grosse tête,
ouais,
même on la prend pas du tout.
Bon, vous concernant,
honnêtement, le roman est sorti depuis une semaine, donc c'est encore un peu tôt pour crier victoire, mais les premiers retours me touchent beaucoup, d'autant,
oui,
plus que ce livre, vous l'avez compris, Claudine, est un peu plus qu'un thriller à mon cœur, à mes yeux,
oui,
et moi j'y ai mis beaucoup d'émotions, j'y ai mis...
Il y a beaucoup de vous dans ce livre.
Il y a beaucoup de vous, et puis j'avais vraiment cette envie
beaucoup
de finir le livre, un peu le cœur serré, très touché par ces personnages,
oui,
et les premiers retours, en effet, que j'ai, sont que pas mal de lectrices et de lecteurs ont été très touchés par cette histoire,
oui,
et en ont peut-être apporté un peu plus qu'un simple thriller. Donc,
moi,
là, pour le coup, c'est une belle victoire.
Pour moi, c'est plus qu'un thriller, c'est, comment dirais-je, c'est presque un documentaire.
Ah bah écoutez, oui, bon, alors attention, hein, ça reste une fiction.
Mais non, mais je le sais, je le sais bien, Olivier, mais voilà, moi, j'ai eu l'impression, ouais, d'un documentaire, c'est-à-dire que c'était, vous racontiez une histoire, mais une histoire vraie. Je sais que c'est de la fiction, mais
Mais c'est réussi parce que ça prouve que ce que le travail que vous avez acharné, le temps d'installer l'histoire, de vous y préparer, c'est que ça a marché, c'est ce qu'il fallait, écoutez, c'est le temps qu'il fallait. Et puis Marie Janssen, c'est réussi. Autant Paul Green aussi. Moi j'adore Paul Green. Hein, je suis sûre que j'espère qu'on le retrouvera parce que franchement le personnage est attachant. Et alors à un moment donné, je me suis dit. Bah, Paul Green et Marie Janssen, ça pourrait faire un couple de. Alors, ils sont très différents, ça pourrait être très drôle. Hein. Moi, je suis pas écrivain et je ne sais pas si je le serai un jour, mais dans une enquête, ça pourrait être. Ça... Ouais, je sais pas, j'y ai pensé.
C'est ton jamais. Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal de lecteurs et lecteurs qui me disent, même là, en découvrant le livre, mais est-ce qu'il y a Paul Green dedans ? Alors, je leur ai dit, mal Paul.
C'est
un Américain. Se retrouver en Corse, là, on est vraiment dans l'enquête camp.
Ça irait pas du tout.
Mais
elle pourrait aller aux États-Unis, Marie.
Sait-on jamais. En tout cas, c'est pas prévu, très honnêtement. Marie, pour moi, dans le livre, vous le verrez, si vous avez envie de le découvrir, Marie, traverse un chemin de vie, un chemin psychologique que je voulais faire, que j'essaie de faire à tous mes personnages, on en a un petit peu parlé. Et pour moi, arrive au bout de son histoire. J'aime bien clore des chapitres, clore des histoires, et là, pour le coup, Marie a vraiment son histoire qui se termine. Mais il n'empêche que peut-être qu'on pourra la retrouver avec de nouveaux enjeux.
Justement, ce qui est intéressant et ce qui est bien fait, c'est que son chemin de vie au travers de cette histoire, et elle-même, elle se découvre. C'est-à-dire qu'il y a des choses en elle qu'elle ne soupçonnait pas, et toute cette histoire qui lui tombe dessus, parce que c'était pas vraiment prévu, ça en fait quelqu'un d'autre aussi. Et ça, c'est très émouvant aussi.
Ce que j'essaye de faire aussi avec mes livres, c'est que même si on est dans une vraie obscurité, c'est des romans qui sont sombres, des récits qui sont assez noirs, évidemment. J'essaye toujours de garder une part de lumière.
D'humanité.
Le récit est un peu cathartique aussi à la fin, et donc il y a toujours un peu de lumière, rassurez-vous.
Mais c'est toujours un peu de votre humanité, votre lumière aussi que vous mettez dans vos livres, et ça c'est important. Et on le ressent toujours. En tout cas, moi, j'ai adoré. Et je sais que tous ceux qui l'ont lu, les retours sont fabuleux. Et dithyrambiques, Roche de sang aux éditions XO. Olivier, c'est toujours trop court. C'est toujours trop court. Mais en tout cas, c'était de nouveau un vrai plaisir. Votre prochain roman dans un an, alors c'est ça ?
Écoutez, oui, il faut bosser. Mais en tout cas, il est en chantier. Vous connaissez maintenant, là, donc du coup, je suis vraiment en documentation. C'est encore un sujet, ça va être une immersion dans un milieu assez méconnu, mais qui est très, très d'actualité.
Bon, j'ai plus qu'à patienter, comme tout à chacun, encore pendant un an. En tout cas, merci infiniment, Roche de sang, éditions XO, ça a été un vrai bonheur, et puis je souhaite une belle vie à ce roman qui le mérite infiniment, et puis à son auteur aussi qui le mérite infiniment. Merci Olivier, et à une prochaine fois.
Merci Claudine.
Merci. Quant à nous, on se retrouve une prochaine fois. Franchement, je vous recommande ce dernier roman d'Olivier Ball. Si vous n'avez pas lu les autres, allez-y, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et puis un bon week-end du 1er mai. À très bientôt. Quando a Berlin quando era separaria.
qui sa terre est la mer. Tandos are mi amici, par qui sare mi pari.
Quando sarà di un'inno,
sì,